Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Pour cette dernière émission de la saison, nous avons le plaisir de nous rendre chez Thibault, installé en maraîchage bio sur la commune de Montlaur.
Alors, je m'appelle Thibault Fournier.
Ouais.
Je suis installé sur la commune de Montlaur, en maraîchage bio. J'ai un associé qui est mon beau-père, avec qui on s'est installé juste après la couveuse, ensemble. Et lui qui était déjà installé sur la commune de Montlaur. Le nom de la société, c'est ERL de Reissac, mais moi, je suis plus connu sur les Jardins du Rougier.
Les Jardins du Rougier.
Ouais. Bon, alors, au marché, tout ça, ma pancarte, c'est les Jardins du Rougier, donc, puisque je suis au milieu du Rougier.
D'accord.
Et voilà, donc...
Et ça fait combien de temps alors que tu fais du maraîchage ici?
Alors ici, depuis 2018. J'étais installé à la couveuse maraîchère à Sainte-Afrique en 2016. J'ai fait 2 ans et en 2018, je suis venu ici, du coup, sur Montlaur, parce que j'ai eu l'opportunité de ce terrain que mon beau-père a trouvé. Et voilà, du coup, avant, j'étais technicien dans un bureau d'études sur Toulouse. D'abord sur Aix-en-Provence, j'ai fait 3 ans technicien rivière sur Aix-en-Provence et 3 ans à Toulouse dans un bureau d'études. Sur la gestion des rivières. Et voilà, donc on a décidé de rentrer en Aveyron avec ma compagne.
Parce que tu es originaire d'ici.
Voilà, moi je suis originaire d'une ferme en dessus entre Rebourguil et Esplace, de la Capelle. Donc mes parents étaient exploitants agricoles d'Auvenlay. Et voilà, donc en fait, suite au décès de mon père, on est parti de la ferme. Et voilà, du coup, moi j'ai toujours gardé un lien quand même avec l'Aveyron et même la ferme, j'y allais régulièrement. Ouais.
Et quand tu as décidé de te lancer dans l'agriculture, pourquoi est-ce que tu as choisi le maraîchage? Tu aurais pu reprendre la ferme familiale, peut-être?
Alors, moi, déjà, je voulais quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de faire de la vente directe. Ouais. Et donc, l'élevage en vente directe, ça demande... le maraîchage, je ramasse mon produit, je le vends. En élevage, il y a une autre étape, quoi, il y a la transformation. Ouais. Et ça, c'était une autre compétence. Moi, je pensais m'installer tout seul, dans un premier temps. Et du coup, j'avais pas envie de gérer une autre compétence. Et par contre, petit à petit, quand je travaillais dans le bureau d'études, du coup, j'ai commencé à un peu regarder ce qui se faisait. J'étais allé en visiter au bord de Toulouse. J'ai démissionné du coup pour travailler chez des maraîchers en région toulousaine. Et là j'ai vu que c'était sympa quand même. C'était voilà, quelque chose qui me plairait.
C'est assez contraignant comme boulot, physiquement. Voilà. Ça prend beaucoup de temps dans l'année.
C'est ça, physiquement. Ouais. Après, l'élevage aussi prend beaucoup de temps dans l'année. L'avantage du légume, c'est qu'il y a quand même une saison un peu plus morte, allez, on va dire décembre-janvier, où c'est un peu mort. Après, quand même, ça repart assez vite en février. Mais c'est très contraignant, très physique. Hein. Vraiment très, très physique, parce qu'on est souvent dans des positions un peu... acrobatique, courbé, quatre pattes, là, c'est assez contraignant pour le corps. C'est gérable. Il faut 6 mois pour s'y faire, mais après, une fois qu'on s'y est fait, on n'a plus mal.
ce que tu fais ici, c'est en bio ou...
Ouais, tout en bio. Ouais.
Certifié
en bio. Ouais, certifié.
D'accord,
bio.
Tu as fait la certification AB.
Ouais. Dès le début que je suis arrivé sur le terrain, vu que c'était un terrain vierge, j'ai eu la certification dès le début. Donc, ça, de toute façon, c'était... Après, faire la certif, je l'ai fait, oui, parce qu'au moins, ça permet de commercialiser en magasin bio. Donc, si, il fallait le faire, mais bon, dans mon esprit, de toute façon, je pensais pas m'installer en agriculture hors bio. Après, même s'il n'y avait pas le label, le label AB, c'était pas toujours une obligation dans ma tête, mais je me voyais pas... ramasser des courgettes si je savais que j'avais mis un produit qui me plaisait moyen quelques semaines avant, quoi. Je me serais pas vu les vendre déjà en vente directe. Donc les gens, que 80% de ma clientèle, je les connais, quoi. Ils arrivent au marché, je sais à peu près ce qu'ils vont prendre. Ça fait 5 ans maintenant que je les sers et je me voyais pas du tout je serais pas arrivé à leur vendre quelque chose que moi-même j'aurais eu en me disant purée, quand même il y a ça. On n'est pas sûr que...
Ouais, des conséquences.
Est-ce que dans 10 ans, ça ne fera pas des conséquences?
Et alors, tu vends uniquement en marché, en boutique aussi
ou... Voilà. Alors,
tu fais quel marché?
Je fais des paniers sur Sainte-Afrique et le marché à Sainte-Afrique, le samedi matin, des paniers le mardi soir. Ça, c'est la vente directe, vraiment directe. Ça représente 70% de mon chiffre d'affaires annuel. Et après, je vends des magasins bio ou locaux du Sainte-Africain. Ça représente 30% de mon chiffre d'affaires annuel. les magasins cumulés.
C'est bien de travailler avec eux, c'est...
Ouais, ben en fait, moi, là, j'ai pas de chambre froide. Bon, maintenant, sur le marché, j'ai vraiment fait ma place. Mais au début, bon, les ventes, c'était bien, mais pas, je pouvais pas vendre toute ma production. On va dire qu'aujourd'hui, presque, je pourrais, parce que souvent, vers 10-11 heures, j'ai plus grand-chose. On va dire qu'aujourd'hui, presque, je pourrais vendre toute ma production uniquement au marché, mais ça demande une logistique. Ça veut dire que ce que je ramasse le lundi, parce que les légumes... Ça pousse tous les jours. Si on ne peut pas les ramasser le lundi, et rien que le vendredi, quoi. Il faut que le lundi, j'en ramasse, sinon ça pourrit après. D'accord. Donc, ce que je ramasse le lundi, c'est vendu le mardi au panier ou en magasin.
Et alors, comment on fait pour t'acheter au panier ?
Alors, les paniers, c'est, il faut déjà me demander un mail. D'accord. Et après, moi, je transmets un lien aux gens qui sont intéressés, et ils reçoivent toutes les semaines le lien avec ce qui est disponible et ce qu'ils veulent.
Et tu livres toi-même, hein, ou c'est les gens?
Ouais, c'est à Sainte-Afrique, ouais.
À Sainte-Afrique.
À Sainte-Afrique.
Et
ouais.
Un point de chute, quoi.
Ouais, voilà, exactement, un point de chute, un point centre équestre.
Et le rapport avec la clientèle, t'aimes bien ou pas?
Ah ouais, ça, c'est vraiment la très très bonne surprise du métier. Ouais. C'est vraiment le truc qui m'a le plus. L'inconnu dans laquelle j'allais. Alors, produire du légume, je savais faire, même si c'était pas du tout dans des proportions telles. Mais ça me faisait vraiment pas peur, quoi. Enfin, je savais qu'en me documentant, je savais que je me débrouillerais. Par contre, vraiment, la vente directe, je savais que je voulais en faire, mais j'avais jamais été confronté à la clientèle. Ouais. Et ça, c'est vraiment la très très bonne surprise. Je prends vraiment du plaisir. Les sourires, voilà, on voit un peu on apprend à connaître. Et puis même, surtout, ce qui est le plus important, c'est le retour sur le légume, quoi. Ouais, autant quand c'est pas bien, qu'on sait qu'est-ce qu'il faut changer, si c'est la variété qui va pas, si c'est moi qui les ramasse trop tôt, trop tard, pas assez mûr, trop mûr. Ouais. Ça peut être, ou alors, après, le top du top, c'est les retours positifs.
Ouais, c'est ça, ouais. ça, c'était super bon, c'est régalé. Voilà.
C'est génial, ouais. Ça, c'est top.
Ouais. Oui, et c'est gratifiant.
Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir quasiment qu'en vente directe. Ouais. Quoi.
Bien sûr.
Donc ça aide à se lever tous les matins, on se dit, ah, putain, quand même, c'est cool, quoi.
Ça va faire plaisir aussi. Ça,
ouais, voilà, ça leur plaît.
Bon, alors, est-ce que tu en vis bien aujourd'hui, ouais, au bout de 3 ans?
Ouais. Mais après, voilà, comme juste.
Tu tires deux revenus, tu me disais.
Mon beau-père, lui, il a ses activités.
D'accord.
On est associé avec mon beau-père, mais lui, il avait déjà ses activités. Moi, je me suis greffé sur la société. En gros, on partage l'outillage. Parce que, à titre d'exemple, moi, là, j'utilise un tracteur parce que tout seul, c'est compliqué sur 1,5 hectare. Donc, il faut quand même un peu travailler la terre avec le tracteur pour moi. Et du coup, à la couveuse, j'utilisais le tracteur. Et on était facturé à l'heure. Du coup, ça m'a permis de faire le bilan un peu de ce que je consommais annuellement. Et le tracteur, j'utilisais 70 heures par an. Donc, amortir un tracteur à 30 000 balles pour 70 heures par an, voilà. Quand on en a parlé avec mon beau-père, il m'a dit, écoute, moi j'en ai un, c'est un peu stupide que tu ailles t'en acheter un juste à côté.
D'accord.
On s'associe et on partage ce genre d'équipement, quoi. Là, les équipements qu'il y a dehors, il y en a beaucoup, c'est des équipements que lui n'utilise plus, mais qu'il a utilisé il y a 10 ans, mais qui sont obsolètes, qui marchent encore très bien, mais qui sont obsolètes pour ses activités, et qui pour moi font mon bonheur. Donc c'est vrai que c'est...
Okay. Ici, donc, tu me dis, tu as 1,5 hectare.
Alors, en tout, j'ai 3 hectares, et bientôt, je vais passer à 7.
D'un seul tenant?
Ouais, quasiment d'un seul tenant. Mm-hmm. Mais j'exploite 1,5 hectare en légumes, 1,5 hectare en vigne. Et après, c'est dans le but d'un jour avoir un associé. Le reste, pourquoi pas. Après, je fais beaucoup de turnover,
de rotation
pour éviter tout ce qui est maladie, ravageur. Sur, par exemple, des têtes de culture comme la courge, le poireau, j'essaie d'éviter de les faire sur les mêmes... L'oignon, tout ça, j'essaie d'éviter de les faire sur les mêmes parcelles chaque fois. Donc, c'est bien d'avoir 3 hectares parce qu'au moins, je peux bouger un peu les cultures.
Ça veut dire qu'à chaque fin de saison, tu démontes serres que tu...
Non, les serres, ça bouge pas.
Ça bouge pas.
Les serres, ça bouge pas. J'ai même permis une autorisation de travaux de construire, quoi, pour les serres. Ça, elles bougent pas. Par contre, tout ce qui est en plein champ, il n'y a aucun... Les courges, là, on les voit, elles sont à la sortie de la serre, là-bas. L'an dernier, elles étaient 200 mètres plus loin.
D'accord.
Au milieu du champ, là, maintenant, qui est en herbe.
Ok, ouais, d'accord.
Voilà.
Oui, ils se reposent maintenant.
Voilà, là, d'accord. Ils se reposent. Il fait l'hiver.
Donc toi, ce métier, tu le fais depuis 3 ans. Est-ce que c'est un métier que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer? Et si oui, sur quoi tu le mets en garde?
Bon, alors moi, de toute façon, je le conseillerais toujours à celui qui veut le faire. Hein,
ouais.
Parce que
la motivation qui compte.
Voilà, c'est la motivation qui compte. Et puis même, de toute façon, moi, je me suis longtemps posé la question, est-ce que ça vaut le coup, tout ça? Il y a quelques investissements. Mais bon, de toute façon, je vais pas arriver à... Enfin, j'aurais resté dans mon bureau d'études, à 60 ans, j'aurais toujours le regret derrière ma tête en me disant « Mais purée, mais pourquoi t'as pas fait ça ?» Alors que là, ben, vas-y, t'as envie, ben, fais-le. Enfin, en plus, en maraîchage, avec un investissement pas exceptionnel, c'est pas de l'élevage. Moi, là, l'investissement, en tout, j'en ai eu pour 110 000 euros.
D'accord.
C'est, bon, voilà, c'est, à l'échelle agricole, c'est pas grand-chose.
T'as trouvé quelle source de financement pour ça ?
Le banque et... Ouais, ouais, banque.
D'accord, les banques.
Et ouais, les banques.
D'accord. Et t'as des crédits sur pendant longtemps ?
Non, franchement, pas trop. Ouais, là, je le dis... Enfin, moi, je le dirais jamais, non, le fais pas, tu sais, c'est... En plus, moi, voilà... Souvent les discours que j'ai entendus quand j'étais jeune, ouais, l'agriculture laisse tomber, c'est mort, c'est machin, ouais, fait autre chose. Après, heureusement qu'on m'a aiguillé vers autre chose, j'ai vu d'autres choses. Ouais. Mais je trouve que quand t'es dans le milieu agricole, on essaie toujours de te dégoûter de l'agriculture. peut-être ça a changé maintenant, j'espère, mais bon, voilà. Du coup, non, vas-y, t'as envie, vas-y, fonce. Et puis après, tu verras, de toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver. Au pire, tu revends les serres et... Puis voilà, t'auras une perte, mais t'auras pas le regret toujours. Le pire dans la vie, c'est quoi ? C'est d'avoir des regrets, de pas avoir l'impression d'avoir vécu ta vie. Là, tu la vis, quoi. Vas-y.
Ah, c'est beau, ça, c'est beau. Et alors, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, auxquelles il faut faire gaffe ?
Alors déjà, le conseil premier que je pourrais dire, c'est vas-y, mais si les personnes auxquelles tu tiens le plus, donc ta famille proche, quoi, ta compagne, tes enfants, sont OK. Sinon c'est impossible. Moi et ça c'est pour tous les métiers agricoles, pas que pour le maraîchage, mais voilà, ma compagne elle sait très bien que l'été on partira pas deux semaines en vacances. Et ça elle est institutrice, elle a deux mois de vacances.
Ah oui, oh là là, peu cher.
Elle peste.
Ouais, je comprends.
Elle peste parce qu'elle est en vacances, elle me dit purée quand même, on pourrait au moins partir. Et non, désolé, là c'est plein boom, moi je peux pas. Et après voilà, les week-ends pareil, au printemps quand il commence à faire beau, t'as envie d'aller mettre un peu les pieds dans l'eau, pourquoi pas. Un mois de mai, tu te dis un petit week-end à 7 ou je sais pas, non, t'as tous les plans
arrosés. Quand tu travailles pas, t'as pas de sous quoi.
Et ouais, ça c'est sûr. Et voilà, ouais, du coup, ouais, si t'as pas la famille à 100% derrière toi, soit tu vas devoir te séparer de ta famille, soit tu vas devoir te séparer de ton travail. Mais c'est tellement imbriqué, enfin, la vie professionnelle est tellement prise dans la vie familiale quand t'es agriculteur que... Si, voilà.
Mais tu comptes pas tes heures, toi.
Ah non.
Ça, il vaut mieux pas.
Ah non, il vaut mieux pas. Non. Je m'étais amusé parce que j'avais des stagiaires et un stagiaire m'avait demandé les horaires lycées, enfin pas lycées sur l'année, mais... Et du coup, ça m'avait permis de faire un travail sur savoir un peu, et j'avais compté, et ça, ouais, bon, non, il faut pas compter.
D'accord.
Là, il faut se dire, ouais. Ou alors, il y a des trucs qu'il faut compter comme loisir et pas travail. Ouais. Quand on vient le dimanche matin, que c'est que pour 2-3 heures, ça, si on commence à le compter en travail, ça chiffre très très vite.
Et t'installer en grec, t'y as pensé ou pas ?
Et ouais.
Pour partager un peu le temps de travail.
Alors là, j'ai pas... Parce qu'en fait, avant d'installer quelqu'un dans la galère avec moi, je veux être sûr que ce soit viable pour les deux. Mais ouais, si, parce qu'il y a des choses, des fois, où je reste, je suis bloqué ici un week-end juste pour de l'arrosage de semis. C'est pas un gros boulot en soi, pas 10 heures par jour, mais il y a les 3 heures qu'il faut y être, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que si t'es deux, ben, ça fait 5 heures pour une personne, mais ça lui fait une journée complète, et puis le week-end d'après, il est peinard. Ouais. Donc ça, si, bien sûr, j'y pense. Après... C'est ultra compliqué, quoi, parce que déjà, c'est pas un métier comme les autres. Chacun a sa vision. Il faut que la personne ait la même vision que moi. Il faut qu'on se sente à l'aise de travailler ensemble. Voilà, il y a plein de choses, de facteurs. Donc oui, le jour où je tomberai sur la personne avec qui on s'entend, qu'on aura fait un essai, tout ça, oui. Mais sinon...
Sinon,
pour l'instant, je continue comme ça. Mais j'aimerais vraiment trouver quelqu'un. Après, il faudra aussi que je fasse des concessions. Hein. Si jamais un jour, je trouve pas... la personne que je cherche exactement, je ferai des concessions aussi. Hein.
Bon, alors, ma dernière question, la grande question philosophique. Donc, toi, tu as grandi dans un milieu agricole, ouais. Tu t'en es un peu éloigné, mais tu es vite revenu finalement. Voilà. Est-ce que tu as une idée de l'agriculture, au vu du chemin qu'elle a pris ces dernières années ? Est-ce que tu as une idée de ce qu'elle va devenir dans 10 ans, dans 20 ans ?
Ce qu'elle va devenir ou ce qu'on aimerait qu'elle devienne ?
Ah, mais les deux, mon capitaine.
Ce qu'elle va devenir, honnêtement, c'est super dur à voir. Ouais. C'est vraiment très compliqué, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de j'en ai bien peur beaucoup de la PAC, et pas de ce que les gens veulent, mais de ce que la politique agricole voudra. Et après, honnêtement, j'ai du mal à me fixer. Je pense que quand même, il y a un élan de jeunes qui sont prêts à essayer de faire des trucs, quoi. Enfin, des trucs, tout le monde fait des trucs, mais ouais. C'est un peu bête. Mais non, je sais pas, du maraîchage dans l'Aveyron, il n'y en avait pas tant que ça. Là, il commence à y en avoir un peu plus, quoi. Mmh. On peut diversifier un peu les productions. Et je sais pas. Moi, je pense que les associations, déjà, je pense que s'associer en agriculture pour avoir une vie, c'est un des facteurs principaux. Donc je pense qu'on va aller de plus en plus vers de grandes associations, de gros GAEC, peut-être. Et puis pourquoi pas diversifier un peu, parce que moi je pense toujours que dans une ferme, tu peux avoir plusieurs ateliers. Pas qu'un seul atelier, pas qu'un seul atelier maraîchage, pas qu'un seul atelier poule, pas qu'un seul... Tu peux dans un GAEC avoir un peu les deux et ça peut être assez complémentaire. Et sous réserve que chacun y trouve son compte. Donc je pense que ça peut arriver.
Une relocalisation de la production agricole aussi, ouais, qui est pas mal avec la mondialisation. On prend des tomates qui ont fait des milliers de kilomètres.
C'est ça.
Toi, tu penses qu'il y a quand même une tentative de retour à quelque chose de plus proche?
Ouais, je pense, ouais. Ouais. Et après, ce que j'aimerais qu'elle devienne, c'est que tous les agriculteurs vivent de leur métier sans les aides. Enfin, voilà, que ce qu'ils vendent, en fait, soit vendu au prix que ça a coûté. Le prix du litre de lait serait beaucoup plus cher en parlant du lait. Le prix de la tonne de grains serait plus élevé s'il n'y avait pas toutes les primes à l'hectare et des trucs comme ça. Donc bon, c'est un choix politique pour que les gens aient accès à la nourriture moins chère. Mais bon, est-ce que quelque chose qui est vital comme la nourriture, justement, ne mériterait pas d'être payé à un prix assez cher, plutôt comme téléphone. Il y en a qui sont capables de mettre 1000 balles dans un téléphone.
Ouais.
Et ils râlent pour 20 centimes sur un produit.
Ouais, la salade à 1€.
Ouais, c'est ça. Non, mais ouais. Enfin, après, bon, voilà. C'est ce que j'aimerais. C'est que vraiment, que les gens se rendent compte en payant un truc en magasin ou à quelqu'un de ce que ça coûte vraiment s'il n'y avait pas les aides, quoi. Faudrait faire deux prix, le prix qui paye et le prix si jamais un jour il n'y a pas les aides, vous devriez payer ça. Voilà, bon, maraîchage, pour le coup, les gens payent le prix de revient.
Parce que vous n'avez pas d'aide, vous avez 6 hectares.
Il y a très peu d'aide pour le maraîchage, puisque c'est fonction des hectares. Donc il y a très peu d'aide. Donc pour les légumes, ça correspond au prix que ça coûte. Mais après, pour les autres produits, c'est sûr que c'est vachement aidé, quoi. Donc, donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais. Mais bon, on verra.
On verra. We'll be right back. Donc ici, la serre a semé. T'as presque plus rien maintenant.
Voilà, exactement. Là, c'est la période vraiment creuse. Quelques salades.
D'accord.
Mais c'est tout. Donc là, c'est la période creuse au niveau semi. Il y a deux mois, c'était le feu, il y en avait partout. Et là, voilà, maintenant, tout est quasiment implanté. Et maintenant, il faut entretenir les cultures.
Et en fin d'été, tu relances d'autres cultures,
voilà,
ou pas ?
En fin d'été, j'enlève tout ce qui est dans les serres et je remplis quasiment 100% de la salade.
D'accord. Dans les serres. Ah, que de la salade ?
Ouais, beaucoup de salade, épinards et mâches, et, que des feuilles. Quoi.
Ouais, d'accord.
Voilà, moi, je fais comme ça, c'est ma rotation.
Et ça marche bien.
Ouais, voilà, ça marche pas mal.
D'accord. Elles sont grandes, tes serres ? Quoi ? Plus de 50 mètres, là ?
Ouais, c'est 50 mètres.
50 mètres, de long.
Et 9,30 x 2 de large.
D'accord.
Il y a 950 mètres carrés, je crois, ou un truc comme ça.
D'accord, ok. Elles sont récentes ?
Ouais, je les ai achetées neuves. Mais j'ai quand même un petit plus. J'ai ordinateur là sur le bord de la serre.
Ah, Kezako.
Alors ça, je règle.
C'est une station météo.
Voilà, exactement. Ah, c'est la station météo. Je peux régler la température que je veux sous l'abri. Voilà, je clique. Il y a tout. Il y a quoi ? Il y a s'il pleut, le vent qui fait. Et donc les auvents se ferment automatiquement.
Et les températures intérieures ou extérieures ? Ah oui, non, c'est précisé.
Là, c'est intérieur.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, donc j'ai des sondes et ça calcule. Et dès qu'il fait. Dès qu'il fait trop chaud, il y a le...
Ça se lève tout seul.
Ça se lève tout seul. Voilà, c'est des automates et tout se lève tout seul. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif parce qu'à la couveuse, il fallait sans arrêt être en train de tourner des manivelles. Là, il y en a beaucoup qui font encore comme ça et là, c'est vraiment, ça se gère tout seul, quoi. Donc ça, c'est vraiment un travail en moins. Et pour 2 ou 3 000 euros que ça coûte de plus, ça va être lissé sur 10 ans.
Quand tu as l'empreinte presque 5 000, 2 000 euros, c'est pas grand-chose. Donc là, on est en face de tomates cœur de bœuf.
Ouais, c'est ça.
Quelque chose comme ça.
C'est ça.
Tu as mis les voiles de forçage
alors
à côté.
Ça, ouais, je ne les ai pas enlevés encore. Ouais. Ça fait un mois qu'ils devraient être enlevés. Mais bon, quand il a gelé, là, par exemple, quand il a gelé, là, super fort au mois d'avril, elles étaient déjà plantées. Et donc là, il y a ces arceaux et les voiles de forçage. Donc tous les soirs, je couvre. Et là, la fois où il a fait super froid, j'avais couvert avec deux épaisseurs.
Et t'as sauvé.
Voilà, là, moi j'ai eu moins 7,5 là, la nuit. Et sous serre, il y avait moins 3. Et sous les voiles, il y avait 1.
Ah, 1, ouais. Ça suffit.
Ouais,
ah,
ça bien, suffit. Ouais. Ah ouais, il y avait double épaisseur de voile. Mais ouais, c'était chaud, j'ai eu peur. Mais...
Ah ouais. Et là, il y a énormément de pieds de tomates. Il y en a combien à peu près ?
Il y en a 800 en tout.
800 ?
Ouais. 800 pieds de tomates.
Waouh. Wow. Ouais, c'est du boulot.
Ouais, un peu, ouais.
D'accord.
Il y a 800 pieds de tomates. Après, là, il y a 300 pieds d'aubergine. Mais là, l'aubergine, ça fait deuxième année d'affilée que je suis blindé de pucerons.
Ah oui ?
Tu vois ?
Et ouais, t'as quand même des coccinelles.
Ouais, vachement de coccinelles, ouais. Ouais,
ah mince, des pucerons.
Elles n'arrivent pas à gagner pour l'instant.
Et le fait qu'il y ait plein de pucerons, mais t'as une moindre production.
Ah ouais, l'aubergine l'an dernier, j'ai divisé par 70% de ce que je devais avoir. Hein. Ah. Et là, cette année, je vois que c'est pas...
Ah, c'est
pas
reparti ouf. Pareil, quoi.
C'est reparti, ouais.
Ouais.
Et ouais, malgré les coccinelles, ouais.
Eh oui. Mais il n'y en a pas assez, peut-être.
Ouais, mais je sais, le problème, c'est que j'en ai pas acheté. Ça s'achète.
Ah bon, les coccinelles.
Ouais, ça s'achète. Les larves de coccinelles, c'est ça qui mange le plus de pucerons. Ouais. Et en fait, le puceron arrive, lui, au mois de. Sous les serres, arrive au mois d'avril, mai. Cette année, il a un peu de retard, il arrive début mai. La coccinelle, elle est arrivée il y a 3 semaines. D'accord. Donc le puceron a vraiment pris le dessus. Et donc, ce qui se fait, c'est. Il y a des boîtes qui vendent des larves de coccinelles.
D'accord.
Ça se fait vachement.
Tu trouves ça assez.
Ouais. Ah ouais, ça se trouve très bien. Il y a des commerciaux comme ceux qui nous vendent le terreau qui passent et qui nous proposent des.
Ah tiens, je savais pas.
Ah si, ouais, il y a beaucoup de...
De l'élevage d'insectes.
D'accord. Ouais, beaucoup de... Ça arrive, il y a vachement, il y a des cirfes, il y a vachement de trucs qu'on peut
d'accord.
acheter. Et moi, voilà, moi je sais que j'en ai beaucoup ici, des coccinelles. Donc chaque année, je leur dis non, moi j'en ai naturellement. Mais sauf que là, ça fait 2 ans quand même où elles arrivent, mais trop tard, quoi. Elles n'arrivent pas à rattraper le retard.
Ouais.
Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut acheter des coccinelles, mais les mettre pour les implanter un mois avant qui viennent de dehors.
Ouais.
C'est ça le
donc tu songes à faire ça
l'an prochain. Je vais craquer, c'est sûr. Ouais, je m'étais dit, c'est con quand même d'acheter
des coccinelles. D'acheter des coccinelles.
Non, franchement, non. Ça coûte pas très cher. C'est pas un budget hors norme.
Ouais.
Non. Et puis ça marche bien. J'ai des collègues qui le font et qui ça marche bien. Donc.
Bon, ensuite, tu m'amènes à l'autre serre.
L'autre serre. Alors, il y a des courgettes, mais qui sont en fin de vie puisque ça fait 2 mois qu'elles produisent.
Ah oui.
Les concombres, les haricots verts et d'autres aubergines.
Ok, là aussi énormément de courgettes.
Ouais, courgettes beaucoup.
Quelques centaines.
Ouais, 450.
Ouais. 450.
Ouais.
Mazette. Et ça représente quoi en volume, tu sais, par exemple 450
ouais.
pieds
ouais,
total.
Alors fait... là, j'ai sorti... je sors en période de pleine production, je dois sortir 400 kilos semaine de courgettes.
Wow, 400 kilos
ouais.
Et tout ça, ça part.
Ouais, alors c'est pour ça que là, c'est important d'avoir les magasins.
Et oui. Après, tu es de la vigne, c'est du raisin blanc.
Ouais, alors il y a trois variétés différentes.
De la vigne, c'est...
Il y a un petit raisin rose, le Suffolk Red, qui n'est pas du tout connu. C'est tout petit, très assez sucré et... Et qui est super bon, mais assez peu productif. Mmh. Après, il y a le muscat de Hambourg, qui est très connu, le noir.
Ouais.
Et un blanc, l'Exalta, qui est une hybride du muscat d'Alexandrie, qui est vraiment super, super bon aussi. Voilà.
Ça se vend bien, ça ?
Ouais, ça va pas mal. Après, ouais, quand... Bon, pour l'instant, j'ai jamais eu 100% de production de ce que je devais avoir, parce que je gèle quasiment tous les ans.
Ah.
Donc
oui, ça tu peux pas le protéger vraiment.
Ouais, non, il y a des choses qui existent, il faudrait que je mette des feux, tout ça, mais là quand il y a eu moins 7.
Moi j'ai vu ça, ils mettaient mais... nettoyer les vignes, il y avait des flammes partout et
c'est
tout.
C'est ça, mais bon, c'est un budget et comme moi là où il a fait moins 7, ça y aurait rien fait donc.
Ouais, déjà.
Donc voilà, il y a un demi-hectare de vignes et là on voit elles sont en pleine floraison.
Ouais.
C'est la
grande ouais, là il y en a plein. Donc, et alors c'est quoi l'intérêt de le mettre si haut?
Ben,
c'est pour la récolte plus facile.
En bio, ça évite d'être trop proche du sol et d'avoir plus d'humidité, plus de maladies.
Mmh.
Là, il y a le vent qui passe beaucoup plus, c'est beaucoup plus aéré. Et en plus, pour la facilité au travail. Quoi.
Oui,
je suis pas
ça.
Comme ça. Je suis
là, c'est quasiment à hauteur d'homme. Ça
voilà, c'est
à
hauteur d'homme. Quand je vais ramasser les grappes ou quand je la taille ou quoi, je suis à ma hauteur.
Ouais.
Donc ça, c'est top. Mais après, c'est une technique qui s'appelle le tébord. C'est une technique pour la vigne, pour
éviter le mildiou et tout
voilà,
ça peut-être.
Pour éviter pas mal les maladies et qui a fait ses preuves dans beaucoup de régions. Et
ces plants-là, tu les as plantés quand tu t'es installé?
Alors non, un peu avant, quand d'accord. J'étais à la couveuse, en 2016.
D'accord.
2017 exactement.
T'avais anticipé?
Ouais. Mais vu que je savais que j'aurais ce terrain, j'avais anticipé un peu.
D'accord. Et t'as combien de pieds à peu près?
800.
800 là aussi.
Il y a 800, ouais.
Alors, comme ça, on s'y retrouve.
Ouais, c'est
vrai. Les 800, c'est bon. Ouais, là, sur la droite de ton champ, c'est le Dourdou qui passe.
Alors là, je pompe dans un petit canal qui est à côté du Dourdou. Le Dourdou est encore un peu plus loin.
D'accord.
Ah, il y a la rangée d'arbres après, là-bas.
Ah, c'est un canal d'irrigation, exprès.
C'est pas un canal d'irrigation, c'est un canal qui va au moulin de Mont-Laure.
Ah.
Et du coup, je pompe dedans, ouais.
Vu que le moulin, il tourne plus.
Et si, il tourne.
Ah
ouais.
Il fait quoi?
De l'électricité.
Ah bon?
Ouais.
Ah, je savais pas ça.
Et ouais.
Ah mince.
Donc là, on arrive à...
Donc là, on est sur le terrain friche et on arrive là où tu m'as dit, les courges.
Voilà, les courges.
D'accord.
L'an dernier, était un peu plus au fond, là-bas.
Donc, c'est et ton terrain, il va jusqu'au bout, là, jusqu'à la route
bout. Exactement.
D'accord.
Jusqu'au bout. Après, il se rétrécit, ça fait un tournoir un peu. Ah. Donc là, je vais planter les poireaux que je vais recevoir.
D'accord. Ouais, le terrain était plus ou moins travaillé.
Voilà. Si, travaillé.
Si, pas plus ou moins.
Et là, donc, les courges, butternut, petit marron,
d'accord, c'est pas encore sorti.
Eh bien non, là, il y a... Et on voit pas encore de courges, mais les plantes sont vraiment jolies, là, donc ouais. ça va pas tarder.
Ça va pas tarder.
Et donc là, les fraises...
Ah, les fraises.
Maintenant, elles sont un peu en friche, parce que j'ai arrêté, mais il y a trois rangs de 100 mètres, hein, donc il y a 300 mètres de...
300 mètres linéaires de fraises.
Ouais, voilà, okay. Juste là-bas au bout.
C'est quelle variété?
Six florettes. Voilà, et là, du coup, pour le coup, t'as des... Ça, les stolons de l'an dernier là qui étaient restés là.
Ouais. Donc là-bas, je te vois aussi des sprinklers, c'est ça qu'on appelle là, comment
ouais.
Tu dis
Sprinkler. Ouais.
Bien ma chérie.
Alors ça, pareil, c'est de la récup à mon beau-père en fait qui les utilisait pour ses cultures de maïs notamment.
Mmh.
Et bon, mais c'est pas un arrosage très très précis.
Mmh.
Mais par contre, c'est super vite à monter. Et puis là, moi, du coup, je travaille en bande de 18 mètres parce que je sais que ça arrose 9 mètres de part et d'autre.
D'accord.
Donc je travaille en bande de 18 mètres. Là-haut, 18 mètres. Là, 18 mètres. Mmh. Là, 18 mètres. Mmh. Je sais que j'aurai 3 rangs de sprinklers. Et voilà, je fonctionne comme d'accord. Ça. Après, voilà, le problème, c'est pour la végétation entourant. Enfin, la mauvaise herbe.
Ça, ouais,
j'arrose
tout
aussi la mauvaise herbe.
Ouais, voilà.
Donc là, les salades qui sont au milieu, là, sont sous l'herbe.
Ah, il y a des salades là-bas.
Voilà.
Oh, yo. Là, on a des choux, là, non?
Ouais, des choux raves.
Des choux raves.
Ouais.
Donc, début, c'est salade, betterave.
Voilà, là, au début, les betteraves, après, les salades.
D'accord, et là tu as juste une petite rangée de salade là.
Ouais, parce que je savais pas où les mettre. Il me restait deux dans la plaque.
D'accord.
Voilà, du coup, j'ai...
Et là les pousses, c'est quoi?
Des salades aussi.
Des salades de quoi?
Sucrines. Des sucrines pour été, ouais. Voilà.
Oh bah c'est super. Bah, merci beaucoup Thibaut.
Bah, de rien, merci. Là, à toi.
Ça fait plaisir. Faut visiter ta belle ferme.
Tant mieux.
Tous nos remerciements à Thibaut pour sa bonhomie et la pertinence de ses réponses. Toutes les émissions de Paroles Rurales sont en libre écoute sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la saison prochaine, même heure, même antenne.